Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il y a comme un vent d'extrême droite qui souffle sur les plateaux télé de France et de Navarre. Et vous n'avez pas eu d'épisode de ce podcast depuis un mois pour vous nettoyer les oreilles. Mais aujourd'hui, fermez les yeux, inspirez, expirez, détendez-vous, relaxez-vous, vous écoutez le chip. Comme d'habitude, je suis entourée de mes deux substituts de frères, on peut dire. François Houlac.
Oui, c'est bien moi.
Le frère qui entre en chantant fou dans ta chambre. Et Kevin Donna.
Le frère d'une autre mère.
Le frère qui refuse de te prêter sa manette pour jouer à la PlayStation.
Peut-être moi.
Donc aujourd'hui, on a une grande nouvelle quand même à annoncer, non? On en parle?
Oui. Allez, vas-y, fais notre
premier. C'est l'éléphant dans la pièce.
Voilà, exactement. Donc c'est un éléphant en forme de carte.
C'est
je sais pas, carte à jouer.
Ouais.
On a lancé une campagne Ulule pour notre premier produit dérivé issu de l'émission Le Chip.
Le Chip, le jeu.
Kevin, dis-nous en plus.
En fait, ça fait longtemps qu'on vous parle, qu'on partage avec nous notre univers culturel, les choses qui nous parlent, qui nous obsèdent. Et on a eu envie de développer un jeu de société, un jeu de cartes, où vous pouvez jouer en famille avec vos proches et échanger autour de l'univers de l'émission. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont culturellement noirs. Je ne saurais pas comment mieux le définir. Et pour que ça se fasse, on a un Ulule.
Voilà.
J'ai plus l'adresse exacte en tête.
C'est pas long. En gros, vous allez sur Ulule, vous tapez le chip, mais sinon, sur nos réseaux sociaux, on a mis l'adresse un peu partout. On peut dire qu'on a fait ça avec Binge Audio quand même.
On a fait ça avec Binge Audio, on a fait ça avec nos cœurs aussi.
Et Upian qui nous ont aidés aussi pas mal sur la mise en place, le design.
L'identité visuelle, oui.
Exactement. Et donc voilà, donc c'est jusqu'au 5 décembre si ça vous intéresse de soutenir ce jeu, de participer à cette campagne.
François fait une très belle story hier soir sur Instagram.
Tellement beau gosse.
Face caméra.
J'ai fait mon influenceur.
C'était un truc de ouf.
Salut les filles.
Il faut que j'influence là. Je dois influencer. C'est pas possible.
Grave influencé. Et après j'en ai acheté deux. Donc voilà.
Donc à part ça, cette semaine c'est un épisode chiant. Non, je rigole.
Ouais.
Non, mais Kevin va nous faire un petit cours d'histoire pour nous expliquer, entre autres, l'obsession des Noirs pour l'Égypte antique, c'est ça?
Un peu, ouais. On va parler de légendes urbaines, de trucs comme ça, de ouais, vous allez
d'accord.
voir.
D'accord. Et est-ce que tu vas nous dire que non, les Blancs n'ont pas cassé le nez du sphinx d'Égypte?
Ne spoil pas.
D'accord. Parce qu'en fait, je tiens juste à dire que selon ma petite sœur, c'est Obélix qui a cassé le nez du sphinx.
Elle n'a pas complètement tort. On verra pourquoi.
J'ai le même tome.
Et bah, du coup, quant à moi, je vais vous parler d'une fable un peu de manipulation et de mensonge sur Twitter. Une fable qui vient d'un compte qui était assez connu de la communauté afro-américaine, qui était le compte @emoblacktot. Mais d'abord, c'est l'heure du trash ou iconique.
Alors, trash ou iconique, c'est moi qui commence cette semaine et j'ai un énorme trash à décerner. J'adore quand on commence par les trash comme ça, on est en jambe, on se chauffe un peu le sang. Cette semaine, je suis revenu sur Twitter après une petite période de désintox en fait. Et tout allait bien jusqu'à ce que je remarque un nouveau phénomène. Je sais pas si vous avez vu des mèmes, des photos, des gifs sans aucun lien apparent les uns avec les autres. Et ils ont tous la même légende, Bomboclat.
Bomboclat.
Bomboclat. Alors je me dis, ok, la nouvelle mode sur Twitter, ça consiste à insulter des personnages de manga, des paires de tongs et des footballeurs en argot jamaïcain. Pourquoi pas? C'est chelou, c'est sombre.
C'est une insulte en jamaïcain?
C'est une insulte en jamaïcain.
Ouais, d'accord.
Mais bon, je me suis dit, ok, j'ai vu pire, c'est Twitter, ok. Et c'est quand j'ai vu, en fait, les commentaires des gens qui donnaient leur avis, en fait, sur le contenu des photos, que j'ai compris que c'était pas juste un truc sur les insultes, mais bien le nouveau Scopa Toumana.
Que t'avais bloqué déjà sur Twitter.
J'avais bloqué toutes les versions et toutes les orthographes possibles.
Putain.
Alors, pour rappel, Scopa Toumana, c'était le plus fatigant de l'année 2019, qui consistait à poster quelque chose avec cette phrase pour
Scopatoumana.
Scopatoumana avec le but de faire réagir la communauté.
Inciter à la conversation.
Mais on est d'accord que Scopatoumana, ça veut rien dire.
Scopatoumana,
ça vient d'une chanson.
Ça vient d'une chanson ghanéenne, mais on sait pas trop ce que ça veut dire et ça veut probablement rien dire.
D'accord. En tout cas, ça veut pas dire lâchez vos coms.
En tout cas, ça veut pas dire lâchez vos coms. Et pourtant, c'est ce qui se passait, vous savez, sur Twitter. Les pizzas hawaïennes, Scopatoumana. Kevin, Air Jordan, Scopatoumana. Les femmes voilées, Scopatoumana. Ouais, forcément. Parce que comme c'est Twitter, c'est très vite parti en couille. Et le truc marrant avec Scopatoumana, c'est que personne justement ne sait vraiment ce que ça veut dire. Certains disaient que ça venait d'un dialecte ghanéen, d'autres que disaient que c'était du hawaïen, on sait pas trop. Mais bomboclat, ouais. C'est...
Moi j'ai grandi avec ce mot.
Moi, c'est différent. Bomboclat, ouais. C'est une insulte donc en patois jamaïcain. Ça veut dire quelque chose comme serviette hygiénique,
sale.
Serviette
hygiénique sale.
Ça va être hygiénique sale ou lingette pour les fesses. Bon, en gros, voilà, c'est une sorte.
Pour les fesses.
Littéralement, c'est un truc comme ça. Mais en gros, c'est l'équivalent jamaïcain de douchebag, quoi. Douchebag, douchasse. Et donc, c'est un mot qui existe depuis les années 50, selon dictionary.com, et qui a mondialement gagné en popularité grâce à la culture raga, puis la culture reggae dancehall. Donc, je sais pas, Vibes Cartel, Capleton, Red Rat,
à l'époque. Ouais.
Qui vous voulez, Bomboclat, c'était le mot à la mode. Même les Caribéens français le disaient, les Daddy Maury et compagnie, c'était Bomboclat, c'est comme ça. On peut parler des rappeurs américains qui utilisaient le mot également. On peut parler de la phase de Biggie, c'est Bloodclat, c'était pas Bomboclat, ouais. Tu sais, Stop your Bloodclat crying. Bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement avec Bomboclat ? Il se passe qu'en fait, pour une partie de la population, Bomboclat, ça fonctionne comme Scopatoumana. Ça veut dire que les gens se disent, tiens, nous avons devant nous un mot un peu chelou qui veut pas dire grand-chose, un mot de charabia.
Un peu gimmick.
Et on va se le réapproprier pour en faire une sorte de mot-valise qui peut tout et rien dire et qui va devenir justement un mème. Et moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, en fait. Je suis absolument contre.
Mais déjà, le principe, à la base, tu es contre. Donc
Non, en fait, j'étais contre Scopatoumana parce que c'était fatigant et très redondant. Mais Bomboclat, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on est en train de, ridiculiser un mot qui existe, qui a une longue histoire. On est en train de vider de sa substance un mot d'origine caribéenne qui a une histoire culturelle, une utilisation large.
C'est un combat de linguiste un peu que
c'est
tu mènes.
C'est un combat de linguiste et de sémantique, je pense. Parce qu'en fait, le problème, c'est que utiliser Bomboclat comme Scopatoumana, c'est le vider de sa substance. Alors que c'est un mot qui existe et qui, en plus, est vraiment très connu. C'est vraiment très, très connu. Enfin, je vous jure. Et donc, moi, ça me gêne, en fait, et ça me déprime. Ça me déprime parce que j'ai l'impression que les cultures noires déjà ont parfois du mal à être respectées et que même une culture puissante et mondialement reconnue comme la culture jamaïcaine va se heurter à une sorte de plafond de verre, de mépris,
un peu de légèreté,
c'est ça. En fait, je pense que ça arriverait jamais à un mot chinois, russe ou allemand. Le Scopatoumana, c'est pas juste, on sait pas ce que ça veut dire. C'est pas seulement ça. C'est genre, ça ne voudra jamais rien dire. C'est un mot, c'est même pas une langue. Tu vois ce que je veux dire? Bomboclat, c'est un vrai mot avec une vraie langue. Donc ça me saoule parce qu'en fait, je pensais que Bob Marley, Sean Paul, Shaggy, Wata Bom Bom et Bomboclat, pour moi, c'était acquis pour tout le monde. Tu vois, c'était acquis pour tout le monde, c'est bon,
non,
on revient pas dessus. Et je me rends compte que non. alors voilà, désolé pour les Ghanéens, j'ai rien dit quand c'était de votre gueule qu'on se foutait. Mais là, je suis vraiment touché, je commence à transpirer. Et Kevin, fais attention.
Ils viennent pour nous,
S'ils ont réussi à avoir les Jamaïcains, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas les prochains sur la liste. Ça se trouve, le prochain Scopatoumana.
Sont venus pour les Ghanéens, je n'ai rien dit. Quand ils sont venus pour les Jamaïcains, je n'ai rien dit.
Encore. Ça se trouve, le prochain Scopatoumana, ce sera Saoufet, Kijan Hao, on ne sait jamais. Donc voilà, pour moi, c'est trash.
Et là, vous ferez circuler une pétition sur change.org.
Ouais, bah quand tu vois ce qui est devenu la pétition de l'appel de la Goyave, je ne sais pas. Bref. Alors du coup, c'est encore moi qui parle, c'est ça?
Ouais.
Décidément, je vais être un petit peu
après,
moins...
Après, tu te tais.
Jusqu'à la fin, on ne veut plus t'entendre.
Après ça, je serai un peu moins bavard. Alors, on a fait un trachico des réseaux. Le trachico des réseaux est de retour pour cette nouvelle saison. Yay. Et on va parler de Kanye West.
Pour
parce
changer.
Qu'en fait... attends. Parce qu'on parle beaucoup de Kanye West. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de Kanye West dans le chip. Mais justement, cette fois-ci, on avait fait un peu un moratoire sur Kanye West. Mais comme cette fois-ci, il ne parle pas de Donald Trump ou de l'esclavage, on s'est dit, ça va.
Là, c'est juste une secte.
Il parle juste de religion. C'est juste
ouais,
ça.
Non, mais ça va, ça passe. En fait, Kanye West aurait affirmé que le rap est là, je cite, la musique du diable. Voilà.
Pile poil pour Halloween.
Vous savez que Kanye West, en ce moment, se lance à corps perdu dans la religion. Quentin, tu vas nous mettre dans la musique. Il a fait une série de Sunday services. En gros, ce sont des messes religieuses avec des guest stars comme ouais, DM.
Des gens riches, c'est la messe pour les riches.
Ou SIA, voilà, donc des messes auxquelles on n'est absolument pas invité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kanye West, il se définissait jusque-là comme chrétien, mais pas spécialement pratiquant, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans sa musique. Et dernièrement, il s'est converti à l'évangélisme. Donc maintenant, il est évangéliste. Born Again Christian en anglais. Donc c'est quelque chose d'un niveau un peu au-dessus. Et son nouvel album, donc, il sort aujourd'hui, quand vous écouterez cette émission, normalement, si Kanye West...
Ça fait un mois, là, que...
Ça fait un mois que ça sort aujourd'hui.
Retiens ses promesses. Ce sera un album de gospel. Et donc voilà, dans une interview, en gros, Adam Tyson, le pasteur personnel de Kanye West, a révélé que Kanye avait pensé un moment à arrêter la musique parce que, je cite, ben, c'est la musique du diable. Et donc, on vous a demandé si vous étiez d'accord ou pas avec, avec cette affirmation. Vous avez été 150 à voter environ. Il y a 9% qui ont répondu « Amen ». Sous-entendu, bon bah ouais, le rap, c'est une musique... Enfin, là, c'est moi qui l'interprète.
Sous-entendu, oui, oui. C'est bah, la musique du diable.
Sous-entendu, ouais. Non, mais c'est musique... on peut dire que c'est une musique négative. Il y a de la misogynie. Il y a des armes. Il y a de la drogue. Peut-être même des Illuminati. Enfin, voilà, on peut estimer que le rap est la musique du diable. Il y a 35% des gens qui ont répondu « Jesus Walks ».
Et c'est le nom du prochain album, c'est ça?
Pas du tout, c'est non. Le nom d'un
Jesus
morceau.
Is King.
Ouais, Jesus is King, c'est le nom de l'album.
Jesus Walk, c'est sur le premier album.
C'est ça, Jesus Walk, c'est un morceau classique de Kanye. Et donc 55% des gens ont répondu va des rétro Kanye, parce qu'on aime bien, on aime bien quand même Shade Kanye. On a une auditrice qui s'appelle Nadia Bolomante qui a dit la musique classique et la musique dite blanche, c'est de la musique angélique peut-être. I need to know Kanye. Voilà, donc elle prend Kanye à partie parce qu'elle est pas contente et dans les 55% qui ont voté va des rétro. Vous aurez voté quoi déjà?
Ah, oh bah moi j'ai voté Vadé Retro.
Tu as voté Vadé Retro et toi, Kevin?
Jesus Walks. Jesus Walks, bon. c'est un peu.
Ça veut dire quoi cette réponse?
Bah, cette réponse, ça veut dire que Kanye, il a toujours eu un côté religieux, chrétien, etc. Mais qu'il n'y a pas besoin de renier le rap pour continuer à avoir sa foi. C'est tout, tranquille.
Moi, je pense que les 55% qui ont voté Vadé Retro, ils ont un peu pris Kanye. Donc, Mélanie, tu as un peu...
Explique ton choix immédiatement.
Tu as un peu pris Kanye. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les gens qui ont voté 55%, ils ont un peu pris l'affirmation de Kanye au pied de la lettre.
Non, mais demande à une votante, sinon.
Ouais, bah... Dis-moi pourquoi t'as
moi
voté.
Moi, j'ai voté ça parce que, en fait, je considère que je peux plus le prendre au sérieux, en fait. Enfin, après, c'est très bien s'il fait sa secte et qu'il fait ses Sunday services et qu'il est content. Je suis contente pour lui. Mais je pense qu'il a plus nécessairement cette posture, tu vois, de personne qu'on doit écouter, qu'on doit essayer de suivre, d'influenceur, un peu comme tu dis, parce que je trouve que. Du fait de sa maladie mentale qu'il a du mal à gérer, qu'il a du mal à traiter, je suis pas psy et tout, donc je veux pas me prononcer sur les détails.
Faire des diagnostics précis.
Exactement, mais apparemment, il a plusieurs fois dit qu'il était bipolaire. Et je pense qu'en fait, il est entouré de gens qui l'enable, quoi, qui en gros profitent du fait que par ses coups d'éclat, il génère de la publicité, donc il génère de l'argent, donc il génère de l'attention, il génère de l'intérêt. Et la famille Kardashian, du coup, se nourrit de ça. Et l'encourage justement dans ces espèces de prise de parole et de délire en fait. Et du coup, en tant que tu vois spectatrice, j'ai mal au cœur de voir ça et je veux pas rentrer là-dedans et je veux pas, tu vois.
Alors.
Continuer à lui donner une attention qui en fait lui fait du mal et fait du mal aux gens.
Alors,
aussi à côté, quoi.
Faut quand même préciser que c'est pas Kanye West qui a dit ça. Enfin, c'est lui qui a dit ça.
Oui, c'est lui qui a dit ça, mais tu vois comment il y a des gens qui sont autour de lui et qu'en fait, génèrent de l'attention les mots qu'il dit.
Kanye West chope de l'attention parce que c'est Kanye West et c'est une interview que son pasteur a donnée, donc Adam Tyson a donnée à un média chrétien.
Ouais, ouais, mais tu
lui demandes
sa relation
en fait, avec
Kanye
West.
Dernièrement, c'est des coups d'éclat, c'est des trucs comme ça, en fait.
C'est pas un coup d'éclat, c'est un truc qu'il a dit dans le cadre de sa confession avec son pasteur personnel et son pasteur personnel a répété.
Non, mais je sais, mais quand je dis coup d'éclat, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc, tu vois, c'est pas je sors un nouvel album et voilà ce que je dis dans mon album, c'est tout de suite des trucs toujours autour de. Un peu controversés, tu vois.
Ouais,
enfin, voilà,
là,
moi, c'est ça qui me gêne, c'est tout. C'est pour ça que j'ai voté ça.
En fait, je trouve on est pile dans ce sujet-là parce que moi, je pense que ce que Kanye West dit lorsqu'il dit j'arrête le rap, c'est la musique du diable, Déjà, il est dans une interprétation très, très mystique en ce moment du monde qui l'entoure, ça ne m'étonne pas, qui est devenu évangéliste. Et je pense en fait qu'il a une interprétation très personnelle en fait, de ce que c'est que la musique du diable, et que quand il dit ça, il ne parle pas tellement de la musique rap en tant que telle, mais plus du mode de vie auquel l'a mené, tu vois, son succès dans la musique, une forme de perdition morale, le fait d'être une...
De dépravation.
Ouais, c'est ça, le fait d'être une star du rap, d'être une rockstar moderne.
Mais ça, tu te rends compte que c'est bien tout noir ou tout blanc. C'est du coup, je passe de l'autre côté, donc ce que je vivais avant n'avait... Enfin, tu vois, c'était le diable, quoi.
Bah, il sort quand même un album, tu vois, mais est-ce que, à mon avis, il disait qu'il voulait arrêter la musique parce que comment dire... son mode de vie, ouais, c'est beaucoup de tentations, très peu de filets de sécurité, et comme tu le dis, c'est très destructeur pour sa santé mentale. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il disait j'arrête la musique, parce qu'en fait c'est la musique du diable, dans le sens c'est une force destructrice en fait pour lui, c'est une force créatrice mais aussi destructrice pour lui, Kanye West. Donc moi personnellement j'aurais voté avec les 35%, tu vois, de Jesus Walks, parce que comme tu dis, Kevin, je trouve que le rap et le sacré sont pas incompatibles. Chance the Rapper, Kendrick sont des gens qui utilisent leur religion dans leur musique pour questionner leur humanité, et c'est très bien. Et Jesus Walks, c'est un des meilleurs morceaux de Kanye West. Ultra Light Beam. Mm. Quand Kanye West mélange le sacré et le profane, ça donne toujours des choses assez formidables. Donc moi, j'irais dans le sens du pasteur Adam Tyson, qui lui a répondu lorsqu'il a dit ça, que en fait, mec, tu peux très bien utiliser ton don pour parler de Dieu. Donc j'encourage Kanye à faire ça.
Ouais, donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de légende urbaine, en particulier d'une légende urbaine noire. La légende urbaine, je pense que vous voyez tout ce que c'est, hein, c'est quelque chose à mi-chemin entre la théorie du complot et le surnaturel. Et là, la Dame Blanche a surgi, des histoires que vous avez déjà dû entendre, ou utiliser vous-même, mais qui s'avèrent pas du tout fondées. Même si j'aime My People, pas si souvent que ça, mais parfois j'entends des théories spécifiquement noires dans leur essence, vous verrez pourquoi plus tard. Des théories qui flirtent avec la désinformation. Et personne n'est au-dessus de la vérité. Il y a pas de la vérité, c'est pas une opinion. Il y a pas de fait alternatif.
C'est un combat. Et c'est le camp des vainqueurs qui a raison, quoi.
On en parlait avant l'émission avec François et Mélanie de légendes urbaines un peu noires dont vous avez déjà entendu parler. Vous m'avez mentionné le sida en Afrique qui a été créé pour
en laboratoire
pour réduire la population africaine. Ou François, toi tu me parlais de Tommy Hilfiger qui aurait tenu des propos racistes, qui voudrait pas que les noirs portent ses vêtements, ouais. Et en fait ça a été démonté. Moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le nez des sphinx. Alors, pour remettre toutes les choses dans leur contexte, je vous raconte un peu comment ça m'est arrivé. À part d'une anecdote perso, donc j'étais au Louvre. Le Louvre, en ce moment, c'est la guerre civile. Ils ont déplacé la Joconde, ils l'ont sortie de sa salle, ils l'ont remise il y a quelques semaines. Il y a l'expo de Vinci qui commence. Donc en ce moment, je vais un petit peu plus au Louvre, et ça faisait longtemps que j'y allais plus parce que lorsqu'il fait beau, je suis dehors, et là avec les températures qui descendent, j'ai des groupes qui me demandent d'aller au Louvre. Donc c'est le bordel, 56 minutes de queue pour arriver à la Joconde, enfin bref, un truc atroce. Je fais ma petite visite, on passe devant des tableaux, des trucs comme ça. On descend, on arrive en fait à l'entresol, dans l'aile Sully, et là on tombe nez à nez, pas de jeu de mots, avec le sphinx de Tanis. Le sphinx de Tanis, vous l'avez tous vu, puisqu'il est dans le clip de Beyoncé et Jay-Z, Ape Shit. Donc c'est un sphinx. C'est une créature fantastique à visage de roi et corps de lion. Celui-ci, il est en granit, il fait 1m80, il est splendide, très bien conservé, il date de moins 2500 avant Jésus-Christ.
Et pourquoi ils le rendent pas? Grandez.
Mais il lui manque son nez. Il manque le nez du sphinx. Donc, pour la énième fois, j'entends quelqu'un dans mon groupe d'Afro-Américains qui dit que c'est Napoléon qui a défiguré le sphinx parce qu'il ne supportait pas, à la pioche probablement, parce qu'il ne supportait pas de voir des nez, des traits, je cite, ouvrez les guillemets, négroïdes de l'Égypte ancienne. J'ai entendu toutes les variantes possibles hein, par rapport à ça, que c'est Alexandre le Grand, Napoléon, un boulet de canon, les Anglais, les Allemands,
Obélix.
Et c'est assez tentant comme théorie, mais malheureusement, c'est complètement faux. Donc j'ai un peu enquêté, j'ai trouvé quelques réponses. La première, à propos du sphinx, c'est qu'il y a confusion entre les différents sphinx. Le sphinx dont on parle, lorsqu'on parle de Napoléon, d'Obélix, etc., c'est le sphinx de Gizeh.
C'est un sphinx géant.
C'est un sphinx qui fait 20 mètres de hauteur.
Ah ouais. Voilà, c'est ça.
On y reviendra un peu plus tard. Celui du Louvre, le sphinx de Tanis, il a des proportions beaucoup plus modestes. Comme je vous disais, il fait 1m80. Il a été retrouvé en 1825 à Tanis, d'où son nom, donc au nord-est du Caire. Et donc, il a été retrouvé en 1825. Napoléon mort à Sainte-Hélène en 1821. Donc, a priori, Napoléon n'y est pour rien. On peut lui reprocher plein de choses.
On sait jamais, il a établi l'esclavage.
Non, mais on peut lui reprocher plein de choses et déféquer à l'envi, si vous voulez, plus tard sur Napoléon. Mais là, en l'occurrence, c'est pas Napoléon. En fait, la réponse n'est pas très compliquée. Ça a été maintes fois démonté, comme je l'ai dit. Et pour un peu mieux comprendre la persistance de cette histoire, j'ai appelé un expert. Un jeune homme qui fait sa thèse sur l'Égypte antique et qui se trouve être guadeloupéen. Donc il est assez engagé dans sa démarche, mais hyper rigoureux sur la méthodologie. Et le mot méthodologie, c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans notre conversation. Lui-même, il a beaucoup fait de balades pour le grand public au Louvre, et l'histoire du nez des sphinx, c'est ce qu'il a, c'est la légende urbaine la plus persistante, celle qu'il a le plus entendue.
Comment il s'appelle ce garçon ?
Il préfère que je dise pas son nom.
Ok, d'accord.
Oh, l'homme mystère.
Ouais, parce qu'il a pas fini sa thèse, et tout.
Ah
bref.
Ouais, d'accord, c'est
important. Le premier élément, c'est Internet. Sans vouloir jouer au vieux con, il y a un regain d'intérêt pour l'histoire noire en particulier sur Internet. C'est plutôt cool, mais il y a le problème des sources, de la véracité. Il y a tout un tas de fake news qui circulent. Cet été, j'ai reçu, vous savez, les vidéos qui tournent au format WhatsApp, avec des trucs un peu militants.
Ah, les chaînes, là.
Ouais. Mais en fait, c'est pas vraiment... c'est comme une chaîne, ça tourne.
Ouais, c'est l'héritier des chaînes qu'on recevait par mail.
Là, c'est les oncles et les tantes qui font « Regarde !»
Exactement.
Ouais. Eh ben, c'est un peu ça. C'est quelqu'un de ma famille qui m'envoie ça et qui me demande ce que j'en pense. Ça s'appelle, alors peut-être que vous avez entendu parler, ça s'appelle « Le discours ignoble de Léopold II, roi des Belges, au prêtre chargé d'évangéliser le Congo belge. »
Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde.
Ouais, donc ça, ce qu'on vient d'entendre, alors ça dure environ 10 minutes, c'est un faux discours de Léopold II, roi des Belges, qu'il aurait tenu donc dans les années 1880 à des missionnaires occidentaux qui partent au Congo, et en gros, de façon hyper cynique, il dit on n'y va pas pour aller apporter la foi ou des choses comme ça, ils l'ont déjà, nous ce qu'on veut c'est en faire des êtres soumis, leur mentir et tout leur voler.
Je pense que les méchants disent pas ça comme ça quand ils vont faire des trucs.
Sur le fond, je pense que Léopold II aurait pu le dire, mais il y a plein d'anachronismes dans le lien, dans la vidéo, et en fait ça a été démonté, débunké plein de fois. En fait, il y a un chercheur qui s'appelle Kalala Galamulume qui raconte la genèse de ce truc. Ça daterait des années 1970 et ça vient en fait du Zaïre, donc à l'époque, aujourd'hui la RDC, et il y avait des querelles politiques entre le pouvoir en place et l'Église catholique, etc. Donc ça, c'est la magie d'Internet, où des vieux mensonges ressortent et sont recyclés à l'infini, voilà, se régénèrent et trouvent un nouveau public. Et puis de façon plus globale, ce dont je parlais avec notre égyptologue, c'est qu'il y a une vraie défiance à l'égard des fondements même du monde académique, du monde universitaire. Notre histoire a été falsifiée, donc on ne peut plus faire confiance à la recherche. On ne peut pas y faire grand-chose de ça, en fait. On discutait, on ne peut pas forcer les gens à croire en la réalité avec des faits scientifiques, mais comme il le rappelle, la méthodologie dans les sciences, dans l'archéologie par exemple, elle est universelle. Il y a des Péruviens, des Kenyans, des Chinois, des Australiens qui l'utilisent. Donc
et malgré ça... tu parles de méthodologie, et malgré ça, il y a de plus en plus de chercheurs et d'observateurs qui tendent à montrer que même... les scientifiques, les universitaires sont soumis à des biais, et notamment des biais d'ethnocentrisme.
Tout à fait. Ça on y arrive un petit peu plus loin.
Okay,
mais effectivement, personne n'est complètement neutre. Ça ne veut pas dire qu'on peut arriver sans aucune méthodologie et juste
évidemment.
Dire je choisis de croire à cette réalité-là parce que c'est celle qui me plaît le mieux.
Oui, c'est vrai.
Pour le sphinx de Gizeh, pas celui du Louvre, je suis allé sur des forums des années 2000 et la question se pose, la question du nez du sphinx se pose à propos d'un morceau de nasse.
I know I can.
Sur l'album Godson de 2002, vous connaissez l'air. Et en fait, il y a le troisième couplet. Making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He was in shock that the mountains were black faces. Shot up their nose to impose what basically still goes on.
Alors, il dit en deux mots, l'Égypte était le lieu où Alexandre le Grand était choqué de voir des montagnes avec des visages noirs, donc il aura shooté le nez pour imposer ce qu'il se passe aujourd'hui, voyez-vous. J'aime bien l'idée, mais encore une fois, c'est très 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 faux. Pour Gizé, donc ce dont il parle, tu voulais ajouter un truc, Mélanie ?
Non, ah bon. J'écoute, je suis okay. En cours d'histoire.
Pour Gizé, ce serait la destruction du nez.
Après, hein.
La destruction du nez, ce serait par les Mamelouks, donc des populations musulmanes, au Moyen-Âge, au XIVe siècle, et absolument pas Alexandre le Grand. Par curiosité, Alexandre le Grand, c'est quand les enfants ?
Alexandre... Oh putain, ça commence.
Attends.
Quel
attends,
siècle
attends. Alexandre le Grand, c'est environ... non, je sais pas.
Je savais pas non plus.
C'est avant Jésus-Christ, c'est genre 4000 ans avant Jésus-Christ, un truc comme
4000
ça.
4000 ans ?
2000.
2400 avant Jésus-Christ.
Ok, 400.
et c'est hyper intéressant, et c'est exactement ça le problème. Le souci, lorsqu'on parle de l'Égypte antique, on aime tous l'idée de l'Égypte ancienne, c'est que c'est il y a longtemps, c'est il y a très 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 longtemps, et on fait des sauts assez monumentaux. Par exemple, nous, on est plus proche de Jules César que Jules César n'était des commanditaires de la pyramide de Gizeh. C'est donc il y a moins 2500. Donc il y a ces espèces de trucs où on est complètement confus, c'est un peu la faute du calendrier grégorien avec des trucs en moins.
Mais dis-moi, Jamy,
oui.
C'est quoi le rapport avec la communauté noire ?
En fait, c'est comment on va s'approprier la fierté égyptienne à partir des années 50.
Ouais, y a des spécificités.
Voilà, il y a un truc, effectivement, il y a eu des falsifications sur notre histoire, il y a eu des raccourcis, il y a eu des calomnies. Il y a un monsieur qui s'appelle Cheikh Anta
Diop, bien sûr.
Voilà. Y a eu cet été sur la chaîne YouTube du Monde une vidéo super intéressante qui s'appelle Cheikh Anta Diop, historien révolutionnaire. Et il y a notamment un passage très intéressant. Ils se sont appuyés sur les travaux d'une jeune chercheuse qui s'appelle Madina Thiam, qui est historienne à UCLA, en Californie, et qui dit ça.
Il n'est pas le premier à apporter cette idée que les Égyptiens de l'Égypte antique étaient des Noirs africains. C'est un débat qui intervient relativement tôt, non seulement en égyptologie, mais également dans les écritures de philosophes grecs, qu'il reprend d'ailleurs à son compte. Mais c'est le premier à essayer de faire une exploration systématique de cette idée pour véritablement replacer l'égyptologie au cœur des études africaines. Et ça, ça dérange parce que, d'une part parce que ça n'a pas été fait, d'autre part parce qu'encore une fois, il publie ce livre en 1954, on est encore en pleine période coloniale.
Ouais, donc là c'est juste pour rappeler le contexte des années 50 où il y a ce, pour l'époque, ce jeune chercheur sénégalais qui va mettre en avant les liens entre Égypte ancienne et le reste du continent. Pendant très longtemps, c'est les Européens qui se sont occupés de ces questions-là et qui ont tout simplement dit, étant donné que c'était une civilisation complexe à avancer et que les autres c'était des sauvages, donc il n'y a aucun lien, aucun rapport avec le reste du continent. Et donc Cheikh Anta Diop a contribué en fait à mettre en avant tout ça. Il y a une démarche scientifique, mais qui n'est pas non plus dénuée d'idéologie politique, il ne s'en est jamais caché, au contraire, il dévoile ça dès le début de ce qu'il veut faire. Il dit « J'ai cherché à connaître le patrimoine de l'Égypte pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. » Il poursuit en comparant cette idée avec la relation que les Européens ont avec la civilisation gréco-latine, à laquelle ils font toujours allusion. Ouais. Et donc en disant que l'équivalent en Afrique, ce serait justement l'Égypte des pharaons, et il veut monter une unité culturelle.
Ouais, parce que l'idée de l'Europe coloniale de l'époque, c'est que l'Afrique n'a jamais donné naissance à une grande civilisation.
C'est ça.
Et puis je pense aussi que ce qui se passait, c'est que les blancs qui faisaient des recherches à cette époque-là s'identifiaient à l'Égypte antique, en fait, à la civilisation créatrice, innovatrice, machin, d'une manière qui s'identifiait pas du tout au reste de l'Afrique. Et du coup, ils disaient, enfin, je pense qu'ils ont isolé vraiment l'Égypte et ils se sont dit, ça, c'est bien, c'est une civilisation dont on peut parler. On prend, voilà, c'est à nous.
C'est vrai ce que tu dis, il y a le côté carrefour, en fait, de l'emplacement géographique de l'Égypte, enfin un carrefour entre l'Asie mineure, le continent africain et l'Europe. Donc effectivement, il y a eu des brassages, des mélanges, des rencontres, etc. Mais ça ne justifie pas d'en exclure complètement l'unité, ou en tout cas la proximité avec le reste du continent. Et c'est aussi intéressant parce que
Dans l'idée, réhabiliter l'histoire de l'Afrique, c'est un premier pas nécessaire dans la construction d'un futur. Et là où je voulais en venir aussi, c'est que le côté noir de tout ça, c'est que dans les années 50-60, on va beaucoup s'appuyer en fait sur Charanta Diop pour créer de la fierté noire. Et c'est là qu'on arrive en fait un peu à ces légendes, à ces mythes qui arrivent de l'Égypte où on est tous des pharaons et c'est l'homme blanc qui ne supportait pas qu'il y ait des traits négroïdes, etc. En fait, c'est malheureusement pas du tout ça. La destruction des nez des sphinx, c'est assez bien documenté. Il y a des textes coptes, en fait ce sont les coptes, donc un groupe ethno-religieux d'Égypte, chrétien, qui à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, et le mot après Jésus-Christ est très important, qui vont en fait profaner, enlever les nez des sphinx, parce que c'est des idoles pour eux, c'est ça relève du culte païen.
Donc c'est du terrorisme christianique.
Je te laisse responsable de tes mots, mais oui c'est un peu ça, c'est-à-dire que après l'édit de Théodose, alors là c'est truc d'histoire chrétienne, je suis pas chaud là-dessus, on décide qu'on ferme la porte. Lui, le jeune égyptologue avec qui je discutais, il comparait ça un peu aux tensions qu'il peut y avoir chez nous aux Antilles entre vaudou ou entre tradition ancestrale africaine et christianisme. On arrive à un changement de religion, donc on casse, on fait les iconoclastes, on casse ce qu'il y a eu avant.
Et on diabolise littéralement les religions précédentes.
Les religions précédentes.
Tous les démons de la religion chrétienne, catholique, ce sont en fait des divinités des religions précédentes. Lucifer, à la base, c'est une divinité grecque, c'est la divinité du matin, c'est devenu le diable, quoi.
La conclusion, c'est, j'en ai pas vraiment, mais c'est que arrêtez de vous radicaliser sur Internet, les gens. Lisez, ouais. Lisez des bouquins.
Ça, c'est vrai que c'est bien connu. En plus, YouTube te propose généralement des vidéos. Si tu regardes une vidéo de conspirationniste, YouTube
Exactement.
Va t'en proposer 10 autres. Donc, du coup, tu rentres dans une boucle.
La vidéo de Léopold II au prêtre, elle est toujours sur YouTube. Et même s'il l'enlève, elle reviendra probablement, malheureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens en fait, qui sont passés avant nous, qui sont passés avant YouTube, qui sont passés avant NAS et qui ont écrit des livres, qui ont fait des recherches. Et je pense que justement, le travail de l'enseignement des historiens, c'est de parler de cette histoire-là, de la transmettre. Faut pas être plein de naïveté et penser qu'il n'y a pas de biais et que quelque chose est définitif. Au contraire, en science, on peut toujours tout remettre en question et arriver, mais avec une méthodologie, avec des preuves, avec des choses comme ça, et pas juste « on m'a dit » et « théorie du complot » et tout ça, tout ça.
J'ai l'impression que c'est presque trop tôt, en fait, pour ça, quoi. Enfin, je suis entièrement pro-vérité. Je suis un grand fan de vérité. Ouais.
J'adore les faits.
Moi, les faits, c'est vraiment mon truc, mon dada. Mais comme on est encore, aujourd'hui encore, dans une forme de démarche de réhabilitation culturelle et identitaire, c'est compliqué de dire aujourd'hui, enfin, aux gens qui sont dans cette démarche-là, de dire en fait, t'es pas du tout un fils de pharaon, enfin, un descendant de pharaon. En fait, ton grand-grand-grand-grand-grand-père, il était Charon. Et tu vois, c'est un peu compliqué, je pense.
Mais ouais, c'est-à-dire qu'il y a dans la
culture, tu vois ce que je veux dire, l'histoire et la culture renforcent les biais cognitifs qui font qu'on va croire,
on va s'accrocher à ça, vu que par ailleurs on est rabaissé.
Ouais, voilà, c'est ça.
Non, c'est il y a.
Va dire à Beyoncé qu'elle est pas.
Va lui dire non, mais c'est sûr que si Elizabeth Taylor a pu jouer Cléopâtre dans les années 60 à Hollywood. Tout est permis et en fait sur la question de l'appropriation de l'Égypte, on galère parce que c'est loin et que c'est compliqué. Le monde occidental aussi a galéré et a beaucoup tâtonné sur ce sujet-là. Donc il y a pas de honte à avoir sur les erreurs qu'on peut produire. Il y a pas non plus de honte à avoir sur nos origines parce que tout le monde n'est pas effectivement descendant de pharaon comme tout le monde n'est pas, je sais pas, descendant de Charlemagne ou quoi que ce soit. Donc
tu te rappelles du gamin, le gamin de H&M là qui portait
le smartest monkey, non, cutest,
monkey in the jungle,
ouais. Coolest, coolest,
coolest. Et dans tous les commentaires, c'était laissez-le tranquille, he's a young king, c'est un jeune machin.
Jeune roi.
C'est ce que LeBron disait, non?
Ouais, les Afro-Américains sont vachement là-dedans quand même.
Okay. Imhotep, mes frères et sœurs.
Alors moi, je vais vous parler d'une personnalité de l'ère digitale de nos jours, un pur produit du Black Twitter des années 2010, qui est passé d'iconique à trash, real quick. Et donc, non, je ne parle pas de Franzoul, @Franzoul, suivez-le. Mais je vais parler de l'affaire Emo Blacktot, qui a un peu secoué un segment assez précis d'Internet. Et c'est une affaire que j'ai suivie d'assez près. Et c'est aussi une histoire qui montre, encore une fois, à quel point les femmes noires sont à la fois enviées, caricaturées et ridiculisées. Donc, Emo Black Tot, c'est quoi ? Alors, c'est un compte du Black Twitter américain qui avait amassé à peu près 180 000 abonnés sur le site et qui existait depuis plusieurs années. Il était tenu par Nicole, une jeune femme afro-américaine qui était dark skin, bisexuelle, et qui en fait menait des conversations autour de la race, de la santé mentale, de la sexualité et de la féminité noire. Donc c'était un compte qui était très retweeté, très influent et particulièrement positif, ce qui sur Twitter est quand même un exploit, on peut le dire. À la base, le compte il avait été créé en 2012 sous le nom de Mad Black Tot. Alors vous savez ce que c'est une tot ?
On va dire tot pendant toute l'émission. Moi, ça
oui,
tot. En tant que
tu veux dire tot ? Tu veux que je fasse le tot ?
Tot, mais pas pour faire le tot, mais...
C'est quoi, c'est that hoe over there ? Non, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est venu d'Instagram, effectivement.
Ah, je savais pas que c'était un acronyme.
Ah si, si, c'est l'acronyme de ça.
D'accord, je crois que c'est juste un synonyme de...
Et
comment tu traduis that hoe over there ?
C'est pas féministe, hein, mais bon, c'est traduit.
Dis-le, dis-le et je bip ta voix. Vas-y.
C'est en gros, c'est cette
bip
pétasse. Le bip a raté, mais voilà. En gros, c'est cette pétasse qui est à côté, quoi.
Okay.
Et effectivement, donc, je pense que c'était de la réappropriation de ce terme, justement. Et donc, on avait Mac Black Tot, c'est ça ?
Ouais.
Qui avait été striké en 2017 et il y avait un backup donc, qui s'appelait Mock Black Fot qui était revenu et qui a très vite regagné les followers. Donc ce qui était intéressant avec ce compte, c'est que c'était à l'intersection de plusieurs pratiques hyper courantes et populaires sur Twitter. Donc ça réunissait tout ce qui faisait que vous allez être suivi, quoi. Donc la première, c'était vraiment le self-care, donc le bien-être. Le compte nous rappelait par exemple de faire des rappels réguliers de boire de l'eau. Tu scrollais d'un coup et oublie pas de t'hydrater. T'avais aussi les rappels de faire ta skincare routine le soir, de bien mettre ton écran solaire le matin avant de sortir de chez toi. T'avais de manger des vrais repas, de prendre tes médicaments, de se redresser le cou quand tu scrolles sur Twitter. Donc voilà, c'était vraiment un truc hyper bon enfant.
Sauve la vie, quoi.
Non mais c'était hyper bon enfant, ça crée une communauté et c'était drôle et c'était accompagné d'eux-mêmes. Donc c'est en grande partie ce qui a fait le succès du compte. C'était ça. Et la deuxième pratique du compte Emo Black Tot, c'était celle du stan Twitter. Donc, promouvoir des artistes qu'on aime, spammer la timeline en postant des clips, des vidéos, des photos, tout ce qu'on veut. Et notamment, le compte a beaucoup soutenu Megan Thee Stallion au moment de son come-up vraiment 2017-2018. Et Ariana Grande, Kehlani et aussi beaucoup Normani dans les derniers mois. Mais aussi Lil Nas X. Et ça, c'est intéressant, on va y revenir. Parce que le compte, du coup, Emo Black Tot s'adressait directement aux stars et les stars lui répondaient. Et le compte était vraiment suivi par Ariana Grande, Kehlani, plein de stars en fait, qui disaient « Ouais, j'ai fait ma skincare routine ce soir ». Enfin, c'était un peu surréaliste. Et la troisième pratique du compte, c'était celle du « Ho Twitter ». Donc, c'est pas comme la faute. Comment on peut décrire la « Ho » ?
Bah, c'est une femme qui a longtemps été dépeinte comme une femme aux mœurs légères, mais qui aujourd'hui assume pleinement sa sexualité.
Tout à fait.
Comme Issa Rae dans Insecure.
Rotation.
Voilà.
Donc, le Ho Twitter, c'est aussi connu sous le nom du chéri emoji Twitter. Donc, le Twitter cerise rouge en français. C'est une manière d'assumer les relations amoureuses. Voilà, comme tu dis, François, on les assume, on est positif, c'est très body et très sexe positive. Et on raconte ouvertement ces histoires de cœur, ces histoires de cul, et on apporte du réconfort aux autres qui vivent un peu la même chose. Donc en France, on a un peu mis under girls sur ce créneau dont on a déjà évoqué le Twitter.
Et puis clarification.
Et clarification, effectivement. Et du coup, Emo Black Tot, c'est devenu plus qu'un compte Twitter. En fait, c'est devenu une communauté autour de ces éléments-là. Et les femmes noires, et notamment la communauté LGBT, s'y reconnaissaient.
Il y avait genre combien d'abonnés environ, comme ça ?
180 000.
Ah ok, on parle en 100 000, quoi.
Ouais. Et donc, dans les commentaires, les gens avaient des conversations. On disait « Ah ouais, j'ai vu que t'avais dit ça la dernière fois, comment ça s'est passé avec ce mec ?» et tout. Enfin, c'était vraiment une vraie communauté. Et parfois, du coup, le compte Twitter Emo Black Tot, créait des threads où elle demandait aux gens de poster leur compte Cash App ou PayPal pour qu'ils puissent se verser de l'argent entre eux. Genre, ah, t'as pas d'argent pour manger cette semaine, tiens, vas-y, je te donne 50 balles, quoi. Donc, il y avait vraiment cet aspect communauté. Et parfois, elle aussi, elle disait, ah, bah, moi aussi, cette semaine, je suis en galère, si vous voulez me verser, mon Cash App, quoi. Et le dernier truc qu'elle faisait aussi, qui lui apportait beaucoup de succès, c'était, elle disait, bah, aujourd'hui, je vais faire un thread sur les artistes qui ont moins de 10 000 abonnés. Si vous êtes un artiste et que vous n'êtes pas beaucoup suivi sur les réseaux, postez ici.
Okay.
Et comme elle avait une grosse communauté, bah, du coup, les gens suivent. Voilà.
Ouais.
Donc, c'était très, voilà, positif. Il y avait un vrai aspect engagement, communauté. Les gens aimaient beaucoup ce compte. Et même moi, c'était un compte que je suivais depuis 2015, je crois, avec le chip. et j'aimais beaucoup ce compte, en fait. Je le trouvais hyper positif, un peu dans, le, dans la, la mare.
Ah,
un
c'est
peu...
très dans la mouvance Twitter, quoi.
Bah ouais, voilà, mais tu vois, c'est pas dans l'outrage.
Ah ouais,
et c'est
cool,
ça qui était...
Cool.
Était...
Dans l'outrage ou dans l'outrance?
Non, mais tu vois, l'outrage...
L'indignation, quoi.
Ouais,
c'est vrai,
vois,
c'est vrai.
Ah, d'accord, ok.
Sur Twitter, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas...
Ah oui, d'accord, ok.
Tu vois. Et du coup, ce compte, depuis 2012, au moment où il a été créé, ça a représenté une vraie sous-section de Twitter, donc qui était positive, qui était virale et qui était un peu un exemple idéal de femme noire exposée qui se faisait pas harceler.
Ouais.
Qui est quand même quelque chose qu'on voit rarement. Et du coup, sur la fin, on va dire sur les deux dernières années, moi, je trouvais que les tweets étaient un peu forcés, un peu répétitifs. Et... c'était un peu bizarre.
T'avais des soupçons. T'avais
voilà.
Des soupçons.
Ça a commencé à faire les tweets sponsorisés.
Alors, ce qui se passe, c'est que pendant tout ce temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le compte était en anonyme.
D'accord.
D'accord. Donc, à un moment, il a même été soupçonné d'être tenu par Beyoncé ou Rihanna en secret. On pensait que c'était leur burner, quoi. Et il y a quelques mois, Emo Blackfoot a commencé à tweeter sa frustration d'être anonyme et de ne pas récolter les fruits de sa communauté et de son travail.
D'accord.
Et du coup, on voyait souvent qu'elle répondait à Lil Nas X et que Lil Nas X lui disait « Non, mais t'inquiète, toi aussi, tu vas avoir ton come-up, t'es mon pote, machin et tout ». Et au bout d'un moment, elle a commencé à teaser un reveal. Elle a dit « Bon, bah, maintenant, là, je vais révéler qui je suis, je vais vous le dire. Et comme ça, soutenez-moi parce que franchement, j'adore cette communauté, mais dans ma vie, ça va pas et j'ai besoin voilà, de soutien. »
En fait, c'était Mel Gibson.
Et donc, le reveal a eu lieu. Moi, j'ai suivi, j'étais devant mon ordi, je l'ai même dit à mon mec, j'ai fait « On regarde !» Et donc, le reveal, c'était une vidéo YouTube et un article dans le magazine Paper, qui est le magazine qui se vante souvent de break the internet. Et donc là, on peut dire qu'effectivement, une certaine version de l'internet a breaké, puisque Emo Blackfoot n'est pas une femme, mais un homme appelé Isaiah Eklund. Donc c'est un homme noir, cis, genre, bisexuel, et qui est un étudiant au chômage et qui voulait capitaliser sur la fame qu'il avait acquise grâce au compte et travailler dans l'entertainment.
J'ai cru que ça allait être un scénario à la... Tu sais, le film qui est sorti il n'y a pas longtemps aux États-Unis, la Lokisha. Vous savez,
oui.
Cet homme blanc
mais
qui se fait passer
qui a un podcast qui se fait passer
on n'est pas si loin de ça, hein, parce qu'en fait c'est quand même un homme, tu vois, et c'est quand même un homme qui a capitalisé.
Il est
noir, mais il est light skin.
Ouais.
Et
il a
capitalisé vraiment sur un peu cette caricature. Il disait qu'il était dark skin, qu'il s'était fait discriminer quand il était plus jeune parce qu'il était dark skin. Enfin, le comte Emo Blackfoot racontait ces histoires-là. Le comte Emo Blackfoot disait « Ah là là, moi j'ai mal, en ce moment j'ai mes règles. »
Est-ce que je peux dire quelque chose?
Tenez mes
non,
remèdes, quoi.
Non, tu peux pas, Kevin. Non, tu peux pas dire quelque chose.
Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait fait un épisode sur le Black Twitter, etc. Et j'avais soulevé un petit peu d'agacement parfois que j'avais à l'égard de Twitter, et déjà rien que ça, il y avait des gens qui essayaient de me mettre des petites gorgettes sur Twitter, mais je disais juste que parfois j'avais l'impression qu'on était un peu dans la démagogie et que je vois à peu près la dynamique qui fait que quelqu'un peut arriver et de façon hyper caricaturale se faire passer pour quelqu'un de tel
bien
groupe
sûr.
Avec de la démagogie, en disant ce que vous avez envie d'entendre,
ouais.
En fait.
C'est comme Netflix, en fait. Vous savez, on dit que les séries de Netflix sont faites
à partir d'algorithmes
qui nous disent juste voilà ce qu'on
veut. Mais c'est ça qui est hyper troublant, en fait.
Vous avez marre de
c'est
tous
que
les
le
hommes
gars...
qui sont trash quand vous avez mal au ventre à cause de vos règles, de la société qui comprend pas.
Boum, 10 000 retweets.
Voilà.
Non mais du coup c'est ça, c'est de là d'où est venu le shitstorm, parce que lui il pensait qu'il allait commencer une carrière dans l'entertainment.
Non.
Je peux vous dire que ça s'est pas passé comme ça, et que du coup il y a sa communauté qui s'est retournée contre lui et qui lui a dit non mais attends, c'est quoi ces conneries, quoi, enfin ouais. tu nous as menti pendant 7 ans, quoi. Et du coup les femmes noires se sont senties trahies, il s'est excusé, il a fait un iOS press release, donc c'est prendre l'appli note de
son
iPhone et dire oh, désolé, voilà. Et alors effectivement du coup il y a eu un énorme, parce que la chanteuse Kehlani du coup a fait un Instagram live en disant qu'elle avait reçu des messages du gars qui lui avait dit vas-y, je veux devenir célèbre, comment je fais. Elle lui avait dit mais arrête de mentir aux gens, quoi, dis-lui la vérité, dis-leur
la
vérité.
Ah,
elle connaissait, mais en même temps elle voulait pas le outer,
quoi.
Tu
ouais.
vois. Et du coup, moi pour terminer, je veux juste dire que on a beaucoup reproché aux femmes noires d'avoir cru que Emo Blackfoot était une femme. On leur a dit ah putain, les filles, vous êtes vraiment connes sur internet, on peut vous faire croire n'importe quoi et tout. Et moi, je pense que c'est pas le bon angle pour analyser ça. Je pense qu'en fait, quand on est victime d'un scam, c'est pas qu'on est idiot.
Non.
C'est que on nous donne ce qu'on a envie d'entendre, ce dont on manque. Et en fait, les femmes noires, c'est quand même une des communautés les plus sous-représentées, les plus sous-investies par les médias. Emo Blackfoot, du coup, elle avait même été invitée dans des groupes chats privés où des femmes noires s'envoyaient des nudes dans une démarche body positive, ce qui complique encore le problème.
Ne ris pas, François, ne ris pas.
François, c'est pas drôle.
Oh, le loup dans la bergerie, c'est affreux. J'imagine le gars. Excusez-moi, mais...
Et les femmes noires, c'est aussi le segment le plus à même d'être maltraité sur Internet, d'être harcelé. Notamment, on en parlait avec Kevin, mais un autre cas de cosplay comme ça de femmes noires, ça a eu lieu pendant l'élection américaine de Trump en 2016, où des électeurs de Trump se faisaient passer pour des femmes noires en disant « J'adore Trump, votez pour lui !»
Mais j'ai cru que ça allait être ça, en fait, l'histoire. J'ai cru, parce que c'est une trend assez durable là, en ce moment, de comptes d'extrême droite qui se font passer pour des femmes noires.
Qui se font passer, bien sûr.
Ou queer. Et je pensais que c'était ça, en fait, le scénario.
Bah, ça s'inscrit là-dedans, en fait. Disant, même dans ta communauté, il y a des mecs qui vont quand même profiter de ça.
Bah, du coup, c'est pas un truc politique pour le coup, là. Il voulait
juste de la fame, ouais, mais voilà. Okay. Et du coup, en fait, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que Isaiah Ackland, il a pris l'attention quand même que d'autres femmes noires méritaient quand il tweetait sur les règles. Alors qu'en fait, en vrai, son reveal, c'était purement matérialiste, c'était purement pour devenir célèbre, comme son ami le rappeur Lil Nas X. Parce qu'après, des photos ont émergé où en fait, Lil Nas X et Mo Black Phot étaient amis et ils se prenaient en photo ensemble, ils se connaissaient.
Lil Nas X savait.
Et Mo Black Phot était jaloux et voulait la même chose que Lil Nas X.
Et sans le talent musical.
Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que le compte est supprimé aujourd'hui. L'héritage des Black Phot est complètement foutu à la poubelle.
Non, c'est Internet. Il y a des milliards de captures d'écran.
La communauté n'existe plus. Oui, c'est ça, sûr. En fait, le souci. Et pour terminer, je voulais juste dire aussi que le magazine Feder explique que la présence en ligne des Black Phot, c'est exactement ce que les gens attendent des femmes noires, qu'elles ne soient pas menaçantes, qu'elles soient maternelles et empowering. Parce que le compte n'était jamais en colère, en fait. Même quand elle parlait des victimes de R. Kelly, Mo Black Phot, elle n'était pas en colère.
Ah ouais, c'était pas une femme noire. Non, je retire, j'enlève.
Donc,
j'enlève,
c'était
j'enlève,
pas une angry black woman, mais c'était pourtant bien une caricature.
Ouais. Trap, François, le trap.
Trap Lana. Oui, j'ai envie de vous recommander Lost in Trap Lana. J'adore le
de manière hyper suave.
J'adore ne pas prononcer le T de Atlanta comme les Américains. Atlanta. C'est comme Toronto, tu sais.
Okay.
Bref, c'est une mini-série réalisée par Mathieu Rochet, le fondateur de la revue Gasface, pour ceux qui connaissent, qui parle d'amour et de rap, mais surtout de rap.
Yo, what's up? I'm Rap God, the actual God of all things rap related. And this right here is Larry. 2 days ago, Larry got dumped. And the only way to get his girl back is to put Outkast, hip-hop's greatest duo, back on track.
Je le sens bien. Là, il parle.
Alors en fait, Lost in Trap Lanta, c'est un projet qui se situe entre le docu et la fiction. Donc Mathieu Rochet, il cite notamment le film Borat comme source d'inspiration. Donc ça raconte l'histoire de Larry, qui est un Français, mais qui sort avec une femme à Atlanta, qui s'appelle Destiny, une Nord-Américaine. Donc et en fait, Destiny le largue et elle lui dit en gros, tu sais quoi, je veux bien qu'on retente, qu'on se donne une chance, mais à une condition, c'est que tu reformes Outkast.
Normal.
Outkast. Et ce con, il y croit. Et donc il part dans les rues d'Atlanta, dans les différents quartiers, à la recherche de Outkast, comme on irait à la recherche du temps perdu ou comme on attendrait Godot.
C'est
quoi.
Comme si on voulait reformer les alliages. Enfin, tu vois
non,
ce que je veux dire.
Non, mais là, non.
Moi, je suis parti.
Nope. Et donc bref, Larry va se balader dans les rues d'Atlanta, il va rencontrer des tas de gens, des vrais gens du coup, qu'il va interviewer, donc des rappeurs, des passants, des stripteaseuses. Il y aura à un moment une interview Childish Major, qui est le producteur de You Only Know, tu sais, U-O-N-O là, le morceau You Only Know.
Ok, tu sais, je l'ai pas là, non, je vois pas.
Tu t'aurais pu mettre un insert.
Ouais, un insert serait été bien aussi.
Kevin, quand tu vas écouter le morceau et tu vas réécouter les podcasts, tu vas dire putain.
Je suis désolé à l'avance, je m'excuse pour le mois du futur.
Bref, donc Larry rencontre tous ces gens, leur pose des questions sur l'héritage musical et culturel d'Outkast, et par là, du coup, on découvre non seulement l'héritage d'Outkast, mais en fait l'héritage mondial de Atlanta, qui est en fait devenue une capitale, une place forte de la musique et de la culture depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, voire plus, grâce à la trap musique. Donc voilà, on rappelle quand même qu'en 2017, André 3000, donc la moitié d'Outkast, a dit « j'ai 42 ans », en gros, hein, je vous résume en substance, dans une interview, il a dit « j'ai 42 ans, j'ai pas envie d'être un rappeur de 40 piges, ça m'intéresse pas ». Donc voilà, coucou les fans, merci, mais en fait, si jamais on sort jamais d'album, nous, Outkast, c'est pas très grave.
Mais il fait quoi aujourd'hui ?
Sauf que régulièrement, et justement, il lâche des couplets sur des albums, et puis il s'en va, quoi.
Voilà,
sur,
c'est ça, en fait.
Solo de Frank Ocean, voilà, James Blake.
Big Boy vient de sortir un nouvel album, mais par contre, André 3000, à part des featuring, c'est vrai
qu'ils sont mortels, hein.
qui sont excellents et qui font à chaque fois une grosse impression. Il a un peu arrêté la musique et il dit qu'il préfère se concentrer notamment sur la mode. Voilà.
Okay.
Donc voilà, Lost in Traplenta, c'est 10 épisodes de 7 ou 8 minutes, c'est gratos, c'est sur Arte. Donc c'est en ligne, okay. Donc vraiment foncez, allez-y, c'est passionnant et franchement le concept de narration est absolument génial et c'est une super manière je trouve de découvrir à la fois de se taper une bonne barre parce que le personnage de Larry donc qui est incarné par c'est pas un journaliste, c'est un comédien en fait le mec qui incarne Larry, tu vois ce que je veux dire, ça crée un effet de distanciation qui est super intéressant, c'est pas un docu comme les autres.
D'accord.
Et c'est facile à consommer quoi, c'est les petits épisodes donc franchement allez-y. Et j'ai une deuxième petite reco, alors moi, j'aime pas trop recommander. D'habitude, je recommande pas trop les expositions, mais là, voilà, je voulais donner une petite force à Mac Bright, qui est un auditeur de longue date et un ami du Chip, et qui lance une exposition en fait du 8 au 12 novembre à Paris, qui s'intitule Le corps noir dans l'imaginaire occidental. Enfin, Bois d'ébène, le corps noir dans l'imaginaire occidental, qui en fait est une exposition qui, comme son nom l'indique, interroge la représentation du corps noir. Donc, McBride à la base c'est un photographe, donc il a une série de photos qui s'intitule Bois d'ébène justement qui interroge le corps noir et sa représentation, et en fait il a décidé d'en faire un peu plus qu'une expo, il s'est dit plutôt que juste mettre mes photos comme ça je vais aller un peu plus loin, et donc du coup il va y avoir pendant 4 jours il va y avoir des tables rondes, des conférences sur voilà la représentation du corps de la femme, du corps de l'homme, de la masculinité et en fait voilà de la diaspora dans l'imaginaire européen. Je trouve ça assez cool, surtout si vous avez, comme moi, raté l'exposition Le Modèle Noir au musée d'Orsay. Alors,
ah ouais, tu n'y es pas allé ?
Eh ben, en fait, j'ai eu la chance d'y aller, parce que comme j'étais en Guadeloupe il n'y a pas longtemps, et qu'en fait, l'exposition est en ce moment au Memorial Act de Pointe-à-Pitre,
ah ouais, bien joué.
J'ai eu la chance de rattraper l'exposition bien au Memorial
joué,
Act.
Joué.
Mais à Paris, tu l'as vu.
Mais à Paris, je l'avais raté. Donc, on est dans la droite lignée du Modèle Noir du musée d'Orsay. Donc voilà, si vous avez raté ou tout simplement aimer l'exposition sur le modèle noir, allez voir Bois d'Ébène, donc ce sera dans le 11e arrondissement à Paris, puis les autres infos je vous les mettrai dans l'affiche quoi.
Alors moi, je vais vous recommander un truc dont personne n'a entendu parler, une série HBO qui s'appelle Watchmen.
Oui.
Donc c'est par Damon Lindelof, le créateur de Lost et de la série Leftovers. Alors moi, pour moi, Watchmen, c'était le film un peu joli à regarder, mais quand même assez nul de Zack Snyder en 2009.
J'aime pas Zack Snyder, mais la BD derrière, enfin la BD en...
Le roman graphique, on est d'accord, c'est bien.
Le roman graphique est cool, mortel.
Mais le film était quand même cucu la praline, quoi.
Je l'ai pas vu.
Donc Watchmen, c'est adapté du célèbre roman graphique de l'auteur Alan Moore, de l'illustrateur Dave Gibbons et du coloriste John Higgins. Donc le comics, c'était une uchronie qui avait lieu en 1985, en plein dans les tensions USA-URSS et la peur d'une attaque nucléaire. Voilà, la guerre froide. Mais en 2019, on est quand même à l'aube de 30 crises économiques et 40 crises politiques, et d'une catastrophe écologique en plus. Donc du coup, on se dit, bon, on va faire un zoom sur la menace qui est la plus imminente, qui est la guerre raciale. Et la scène d'ouverture de la série référence directement le massacre de Tulsa, en Oklahoma, en 1921, où des centaines de Noirs ont été tués par une foule blanche qui voulait lyncher un jeune homme noir.
Black Wall Street.
Voilà.
Black Wall Street.
Qui est une histoire un peu méconnue de l'histoire américaine, visiblement. J'ai pas l'impression que c'est un truc m'enseigne trop à l'école, parce que Lindelof a raconté qu'il n'avait jamais entendu parler de ce massacre avant de lire l'article de l'auteur afro-américain Ta-Nehisi Coates, le parrain du podcast. Donc dans la série, il n'y a pas d'internet, c'est en 2019, mais il n'y a pas internet, il n'y a pas de smartphone, Robert Redford est président et on sort de 30 ans de politique démocrate qui a mis en place les réparations pour les descendants des victimes de Tulsa, mais le Ku Klux Klan is back. Donc c'est la 7e cavalerie avec un K.
Ils sont vénères,
ils portent des masques de Rorschach, je déteste Rorschach, ce mot, ouais. Rorschach, et ils assassinent des policiers qui sont à présent eux aussi masqués pour se protéger, et qui disent pas qu'ils sont policiers.
Et qui en plus, tu sais, ils peuvent pas sortir leur gun
oui,
comme ça.
Ils doivent demander l'autorisation pour sortir leur gun.
C'est assez incroyable.
Et du coup, il faut savoir qu'il y a des gros problèmes de droit autour de Watchmen, parce que les auteurs sont opposés à toute exploitation de leur travail, mais en gros, je crois que c'est le studio détient les droits, en gros tout ce qui est fait autour de Watchmen c'est sans leur accord, ils ont juste, ils regardent l'œuvre et ils prennent l'argent quoi. Mais un seul épisode a été diffusé pour l'instant, Ce que je trouve intéressant, c'est que la série laisse de côté tous les personnages de Watchmen originaux et se concentre sur de nouveaux personnages d'aujourd'hui en 2019. Et ça réécrit une nouvelle histoire de Vigilant avec des héros masqués qui sont traumatisés par le racisme. Et ça met en... Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça met en avant l'ambivalence des méthodes des deux camps. C'est-à-dire que les racistes et les antiracistes ont des méthodes de chaque côté qui, où tu dis « Ah oui, c'est chaud quand même ». Il y a qu'un seul épisode, mais moi, pour l'instant, j'ai été happée.
J'ai,
je trouve que
le
style visuel est incroyable, c'est léché, c'est beau, c'est intelligent, mais surtout, surtout, au milieu, on a Regina King,
Regina,
qui est incroyable. Ouf, qui est géniale, elle porte trop bien son nom.
Elle tourne beaucoup, hein.
Cool.
Et elle est impeccable, elle est magnifique, elle a un rôle de badass, enfin, c'est génial, c'est vraiment, je l'adore. Watchmen, donc, à regarder pour avoir un mode d'emploi quand la guerre des races va frapper à nos portes.
C'est sur OCS, c'est ça ?
C'est sur OCS.
Et moi, je vais terminer les recommandations. J'en ai deux. Alors là, la première, c'est un documentaire d'Arte. C'était un peu pour rester dans la continuité de, vous savez, de ces cultures africaines qui vont inspirer les panafricains. Donc après l'Égypte, l'Éthiopie. Donc il y a un documentaire qui s'appelle 1930, le couronnement de l'empereur d'Éthiopie. En fait, c'est à propos de l'ascension au pouvoir d'un certain Haïlé Selassie qui va devenir
King Selassie,
qui pour les fidèles, les adeptes du rastafarianisme ou du rastafarisme, est un grand leader et qui va aussi inspirer, donc, comme je disais, plein de panafricains. Là, il se repose sur des images d'archives parce qu'en fait, le couronnement d'Haïlé Selassie s'est fait donc en 1930 et on va convier non seulement des diplomates occidentaux, mais aussi des journalistes qui vont immortaliser ça. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il se concentre pas sur toute l'histoire de Selassie parce que justement, Selassie, comme tu disais, va inspirer beaucoup de fantasmes. On va le présenter comme soit un prophète, soit un tyran assoiffé de sang. Là, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est plutôt de regarder un peu le contexte des années 30, notamment avec la montée du fascisme, comment il se situe par rapport à la communauté internationale, et puis même des images de l'Éthiopie qui, en fait, à l'époque, avec le Sierra Leone, est le seul pays africain pas colonisé. Mm-hmm. Donc rien que pour ça, pour l'histoire, c'est pas très long, ça dure une vingtaine de minutes et c'est super, super intéressant. Il y a même des trucs sonores, parce qu'à l'époque, c'est très très rare de filmer avec le son. Là, il y a justement il y a des sons, etc. Donc c'est assez cool.
Super.
Et puis la deuxième recommandation, c'est juste, je vais pas être très original, mais Présence Africaine. C'est tout à l'heure, je parlais de Charanta Diop, La Librairie, qui à la base est une revue. Fête ses 70 ans, donc 1949-2019. C'est ça.
To you.
Happy birthday to you. 1949-2019. Ça a été fondé à l'époque par un Sénégalais qui s'appelait Alioune Diop, qui est mort en 1980. À sa mort, Senghor disait que c'était le Socrate africain. Depuis sa mort, c'est sa veuve, Yandé Christiane Diop, qui a repris la maison. Elle a 94 ans. Elle fait tout ça d'une main de maître, elle est bien entourée. Et donc pour les 70 ans, il y a pas mal d'événements qui sont prévus. Il y a eu une interview récemment sur RFI, où justement Yandé Christiane Diop raconte son parcours, tous les gens qu'elle a connus, les gens qu'elle a rencontrés. Ils disent voilà quel est le point commun entre Senghor, Césaire, Chacanta Diop, Bernard Dadier et plein d'autres, René Dépestre. Bah, c'est justement Présence Africaine qui les a édités, qui leur a donné un espace, etc. Donc si vous passez par Paris, 25 bis rue des Écoles, pas très loin du Collège de France, leur porte est toujours ouverte, c'est vraiment 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 des gens qui sont accueillants et vous trouverez tout ce qu'il vous faut en matière de livres, que ce soit des trucs pour enfants qui sont accessibles à tous ou alors des trucs super
pointus,
voilà, vous trouverez tout ça et vous trouverez des gens qui vous aideront, qui vous orienteront et c'est pas juste des vidéos de conspirationnistes sur YouTube, donc c'est déjà très très bien. Donc
lisez des livres,
si vous pouvez, lisez des livres, lisez des articles, faites des trucs quoi, mais mollo.
On a fait tout l'épisode sans prononcer le mot OTEP. Oh, wait!
Oh. Bref,
bisous
voilà.
À vous.
C'est tout pour moi et voilà.
C'était le chip. On revient dans 15 jours si tout va bien. On croise les droits. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter,
@lechippodcast,
sur Instagram,
@lechippodcast.
Soutenez notre campagne Ulule si vous aimez l'émission. Précommandez Le chip. Virgule, le jeu.
Le chip, virgule. Précommandez le chip, virgule, le jeu.
C'est un jeu d'apéro dérivé du podcast. Vous pouvez y jouer avec vos amis, avec votre famille. Parlez-en autour de vous. On essaye de...
On a fait une vidéo de malade.
On a fait une super vidéo. On essaye d'atteindre les 500 préventes pour que le projet se fasse. Donc voilà.
Je tiens à remercier les figurants. Les figurants de la visite. Les gens qui ont Oscar filmé, qui ont pris le son, qui ont monté, binge, tout le monde.
Merci vraiment.
C'est un énorme travail. Ça s'est fait très vite. Très bien.
On a peu dormi ces derniers temps.
Non mais moi, laisse tomber. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes vos applis de podcast habituelles. Mais moi, je préfère Pocket Cast.
Pocket Cast. Je suis pas encore vraiment mis à Pocket Cast. C'est vraiment cool.
Laissez-nous une review sur Apple Podcasts et laissez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Sachez que on lit. Moi, j'essaye de lire assez régulièrement les reviews que les gens laissent. Et à chaque fois, ça fait trop chaud au cœur. C'est trop mignon. Cette émission est réalisée par Quentin Bresson. Sont le seul, l'unique, et coproduite par Binge Audio. Donc on dit merci.
On dit merci Binge Audio et merci Quentin Bresson.
Merci.
Et bisous.
Bisous, à dans 2 semaines.
Salut. Ciao.